Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
Quand tu vis le postpartum de ta compagne, tu sais à quoi t'attendre. Dans les grandes lignes, il n'y a pas eu de surprise. Je savais à quoi m'attendre. La déchirure, le temps que ça prend pour s'en remettre après l'accouchement. On a eu des accouchements très différents parce que le sien était beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de surprise du tout. Moi, j'avais déjà acheté plein de culottes filées, j'étais hyper prête, j'avais mon stock de compresses post-partum, ça me dérangeait pas. Enfin, j'étais prête pour ça, il y avait aucun souci. Je savais que j'allais avoir du mal à m'asseoir, je savais que j'allais être fatiguée, y a pas eu de surprise, c'est juste que c'est pas la même chose de le vivre avec un bébé ou sans bébé, Mais c'est juste le vide en fait, ce vide qu'il faut arriver à gérer. Et c'est ça qui est hyper compliqué. Au début, sincèrement, c'était vraiment de la survie en fait. Hein. Enfin, quand tu vis une expérience aussi traumatisante, enfin moi, mon but c'était juste de survivre à l'heure. Et puis quelques jours plus tard, c'était de survivre à la journée. Et si j'arrivais à survivre à la journée, mon but c'était de survivre à la semaine. Enfin, et ça, ça a duré longtemps quand même. Ça m'a pris quelques semaines de sortir de ce gros brouillard, on va dire. Et quand j'en suis sortie, c'est là où je me suis rendu compte de mon corps et j'ai fait « oulala, ça, c'est, va falloir faire quelque chose et il va falloir se le réapproprier ». C'est juste que c'était pas mon corps, enfin, je le reconnaissais pas et t'as l'impression que c'est pas toi. Moi, j'avais cette impression-là, je me suis dit « mais c'est pas moi, quoi ».
S'il y a bien un défi que de nombreuses femmes essaient de relever après un accouchement, c'est de se réapproprier leur corps. Ce corps qui s'est arrondi pendant plusieurs mois et qu'elles ont parfois aimé, adoré ou même détesté. Bref, ce corps auquel elles ont dû s'habituer avec plus ou moins de facilité. Après l'accouchement, ce corps a subi une autre métamorphose, le ventre est vide. Encore un peu rond, mais vide. En théorie, de manière quasi immédiate, si tout va bien, les bras, eux, se remplissent. La présence passe, en quelque sorte, du ventre au bras. S'en suivent des réactions en chaîne, la montée de lait, la chute d'hormones, les pertes de sang, les contractions utérines, appelées les tranchées. Mais le bébé, il n'est pas toujours là pour remplir les bras de celle qui l'a porté. Et lorsque ce bébé décède avant de naître, ou peu de temps après, il faut faire avec le vide du ventre et le vide dans les bras. Le retour à la maison sans l'enfant. La chute d'hormones sans l'enfant, les saignements, les douleurs sans l'enfant, le retour de couche sans l'enfant. À la tristesse infinie du décès et le vide abyssal du ventre s'ajoutent tous les inconvénients de ce qu'on appelle le postpartum, ce moment de bouleversement intense qui suit l'accouchement. C'est la double peine en quelque sorte. Le corps est abîmé, fatigué, épuisé, parfois dévasté, immensément douloureux. Chaque mouvement peut potentiellement générer un inconfort énorme pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ça, il y a celles qui le savaient avant et celles qui le découvrent une fois l'accouchement passé. Parler de postpartum, ce n'est pas évident. Alors parler de postpartum quand l'enfant n'est pas là, ça l'est encore moins. Je vais vous faire une confidence. Après mon premier accouchement, je ne pensais même pas avoir traversé un postpartum. Pas de bébé dans les bras, pas de postpartum. Un voile était tombé sur cette période. J'avais beaucoup saigné, des douleurs me rappelaient mon accouchement, j'avais mal au dos, mal à la poitrine, mon ventre n'était plus là, les coups n'étaient plus là. Comme n'importe quelle femme qui vient d'accoucher en fait. Mais les larmes étaient bien plus abondantes que le sang. Le deuil était entré en collision avec ce postpartum, au point de l'invisibiliser complètement. Quand j'ai vu passer, il y a plusieurs mois, le hashtag « Mon postpartum », initié notamment par Ilana Weisman, qui a sorti un livre sur le sujet au début de l'année 2021, je dois vous avouer que je ne me suis même pas sentie concernée. J'avais vécu deux grossesses, deux accouchements à la fin du second trimestre, un deuil périnatal, puis des jumelles très grandes prématurées, mais mon postpartum, je l'avais tellement relégué au second plan que je l'avais rendu transparent. C'est comme si j'avais été une femme qui avait accouché, mais sans postpartum. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il faut accompagner toutes les femmes après leur accouchement. Toutes, sans exception. Le postpartum, il faut en parler. Il faut en parler aussi de ce postpartum singulier marqué par le deuil périnatal. Un postpartum marqué par le vide et l'absence, mais un postpartum quand même. Aujourd'hui, c'est donc de cette rencontre dont on va parler. De cette rencontre entre un impensé de la maternité et un tabou de la parentalité. Au revoir podcast, épisode 15, Julie, mon postpartum sans bébé. Dans cet épisode un peu spécial, je me suis alliée avec Constance, créatrice du podcast Les enfants vont bien. Le concept, eh bien Julie, dont vous allez entendre aujourd'hui la voix, est également l'invitée ce vendredi du podcast de Constance. Bref, une invitée pour deux épisodes complémentaires. Julie a 35 ans et vit dans le Pays Basque espagnol avec son épouse et leur fils de 3 ans. Dans le podcast « Les enfants vont bien », Julie va notamment revenir sur le parcours parental que sa compagne et elle ont entamé lorsqu'elles ont voulu avoir un enfant. Pour la première grossesse, c'est la compagne de Julie qui porte le bébé. Et pour la seconde, eh bien c'est Julie qui le portera. Les essais de PMA débutent en mars 2019, mais le parcours est long avant qu'elle ne tombe enceinte. Après 4 inséminations artificielles et 2 fécondations in vitro, une grossesse débute enfin à l'automne 2019. Et c'est une petite fille qui doit venir agrandir la famille à l'été 2020. C'est sur cette seconde grossesse que nous allons nous attarder aujourd'hui dans Au revoir podcast.
Même si j'avais assez peur de l'accouchement, j'avais envie de connaître ça parce que ma femme avait aimé être enceinte. Moi, j'avais envie de sentir ça aussi en moi. De sentir grandir un petit être en moi. Bon, moi, j'étais très optimiste à chaque fois. J'ai été persuadée à chaque fois que j'étais enceinte. Mais là, j'étais sûre que j'étais enceinte parce que j'avais quand même mal au ventre. Enfin, j'avais vraiment des douleurs de règles, quelque chose que j'avais pas senti avant, vraiment différent. Donc, j'imaginais que j'étais enceinte, mais bon. Et donc, on découvre le positif. Donc, on était super contente. Moi, j'étais très contente d'arrêter les essais aussi. J'étais très contente d'être enfin enceinte et voilà, et de pouvoir agrandir notre petite famille.
Cette grossesse se déroule dans une Espagne en pleine pandémie de Covid-19. L'échographie du second trimestre a lieu juste avant le confinement. Tout va bien pour Julie et son bébé. Pendant plusieurs semaines, tous les rendez-vous sont en revanche annulés. Julie doit donc prendre sa tension elle-même et tous les entretiens ont lieu par téléphone. La troisième et dernière échographie approche. Elle a lieu en juin. Julie est enceinte de 35 semaines environ. À cause du protocole sanitaire, elle se rend seule au rendez-vous pendant que son épouse l'attend dehors. Mais ce jour-là, la médecin identifie des malformations cérébrales chez le bébé que Julie attend.
Moi, elle m'avait juste dit qu'elle avait vu quelque chose au cerveau, qu'il y avait un problème au niveau du cerveau, mais elle a attendu que ma femme arrive pour nous donner le diagnostic à toutes les deux. Et en plus, quand je lui ai dit que ma femme était neurologue, elle a préféré l'attendre parce qu'elle savait qu'elle allait bien comprendre et que bah pour moi ça pouvait être utile parce que j'allais être forcément en état de choc et quand c'est comme ça t'absorbes pas forcément l'information tu retiens pas toutes les informations, c'est compliqué. Quand j'ai entendu qu'il y avait des problèmes au cerveau, que ça allait avoir des conséquences assez graves, je me suis juste dit, écoute, on s'adaptera, notre petite fille sera handicapée, et voilà. Je me suis dit, il faudra qu'on déménage, il y a des escaliers à la maison, ça va pas être possible avec un fauteuil roulant. Moi, dans ma tête, c'est ce qui se passait. Mais j'étais plus sur le côté, je sais pas, j'essayais de m'organiser. On m'a parlé d'IMG dès le début, mais j'ai pas du tout voulu l'entendre au début. Enfin, pour moi, c'était inconcevable de pas connaître ma fille en vie. Enfin, c'était inimaginable et j'ai mis vraiment du temps à accepter que c'était quelque chose auquel il fallait que je réfléchisse sérieusement et que c'était surtout pour son bien à elle, parce que moi, égoïstement, j'aurais aimé qu'elle vive, mais pour ma femme, ça a été immédiat. Elle a vu les échographies, elle a écouté sa collègue gynécologue et elle savait déjà que c'était très grave et elle avait déjà pris sa décision. Enfin, elle était déjà consciente du choix qu'on allait devoir faire. Ça, elle était, oui, dès le début. Elle avait été dans un service de neuropédiatrie. Elle avait vu des enfants qui pouvaient être atteints d'une façon plus ou moins sévère par le même virus. Et voilà, pour elle, c'était clair. Et là, on nous a conseillé de faire la demande, même si notre décision n'était pas prise parce que le délai de réponse du comité éthique était de 2 semaines. Et moi, à ce moment-là, après les diagnostics, j'étais déjà à la fin de la 36e semaine. Donc, j'avais pas beaucoup de temps devant moi. Disons que l'accouchement pouvait déjà se déclencher à tout moment. Donc, il fallait aussi être conscient de ça. Donc, on a lancé, je pense qu'on a lancé la demande le jour même. Et ensuite, on en a discuté à la maison. Et ensuite, on a pris la décision. Mais la demande avait dû être lancée préalablement. En fait, non, il n'y a pas du tout eu débat. C'est juste, disons que ma femme, elle m'a laissé le temps d'accepter ça, en fait, c'est tout. Mais il n'y avait pas de débat. C'était évident dès le début. Moi, je le savais. Hein, c'est juste que je ne voulais pas l'accepter, c'est tout. Mais elle m'a laissé le temps, elle m'a accompagnée, elle m'a expliqué. L'équipe aussi soignante a été super parce qu'ils m'ont donné plusieurs rendez-vous avec des neuropédiatres pour me réexpliquer les choses plusieurs fois. On m'a aidée à comprendre et on m'a laissé le temps et c'était bien.
Dans l'extrait que l'on vient d'écouter, Julie évoque un virus. Ce virus, responsable des malformations observées chez son bébé, c'est le cytomégalovirus, c'est le CMV. Un virus très contagieux dont les petits-enfants, surtout lorsqu'ils sont gardés en collectivité, sont souvent les vecteurs. Quand on l'attrape, il n'y a rien de grave a priori, sauf si l'on est enceinte. En cas de grossesse, les conséquences peuvent être dramatiques pour le bébé, au point de rendre possible une IMG, une interruption médicale de grossesse.
La gynécologue qui avait détecté les lésions au cerveau a tout de suite pensé au cytomégalovirus. Alors par rapport au fait que ça n'avait pas été détecté plus tôt dans la grossesse, et par rapport au fait aussi que ça ne touchait que le cerveau, exclusivement le cerveau, qu'il n'y avait aucun autre organe qui avait l'air touché, qu'elle avait la taille qu'elle devait avoir à cet âge-là. Elle avait vraiment aucun autre problème, c'était que le cerveau. Et même nous a même dit... quand est-ce qu'on sait que j'avais été infectée? Probablement, ça a été juste avant le confinement ou juste au tout début du confinement. Hein. Et c'est pour ça que ça se voit pas sur l'échographie du deuxième trimestre, parce que ça a certainement été à ce moment-là, en fait. Je voyais très bien ce que c'était parce que ma gynécologue et ma sage-femme m'en avaient bien parlé, parce que c'est une infection qui s'attrape souvent quand on a des enfants en bas âge et du coup ils te disent de bien faire attention, à pas partager les couverts par exemple, attention au nez qui coule, etc. Tu peux pas ne pas faire de bisous à ton enfant, tu peux pas éviter de toucher ses larmes, tu peux essayer, hein, moi j'ai essayé mais ça a pas marché clairement, donc voilà. Je pense que c'était la première semaine du confinement. On avait tous été un peu malades. Au début, on pensait même que c'était la Covid. Parce que bon, comme ma femme travaille en hôpital et tout, la probabilité de l'attraper est quand même plus élevée. Mais sans plus, on n'avait pas été comme un peu fatigué, comme un rhume. Voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est ça, c'est sûr, c'était à ce moment-là pour qu'on... Ça correspond parfaitement avec les dates que m'avait donné la gynécologue. Après, en France, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment, parce que j'en ai parlé après à mes amis et même des amis qui ont eu des enfants à 2-3 ans d'écart, elles ne connaissaient pas. On leur en avait pas parlé. Je me suis pas vraiment sentie coupable au début. Ça a été plus après, quand le choc est passé, quelques jours après l'accouchement peut-être, où là je me suis dit, c'est moi qui lui ai filé, quoi. Et ça, c'est... C'est dur.
Si Julie avait été informée par les soignants et soignantes qu'elle devait être vigilante face au CMV, elle n'était pas du tout sensibilisée à ses conséquences sur l'enfant à naître. Par ailleurs, comme elle le dit si bien, aucune de ses amies qui vivent en France n'en avait entendu parler, même celle qui était le plus exposée. En France, on tremble à l'évocation des mots listériose, toxoplasmose, diabète gestationnel. À propos du cytomégalovirus, le travail d'information et de prévention est quasi inexistant. Sur ce point, je vous engage vivement à vous rendre sur le compte Instagram Ma Grossesse CMV. Ce compte a été créé par Karen, qui se bat pour sensibiliser et informer les femmes à propos du cytomégalovirus. Mais revenons-en à Julie et sa compagne. Le jour de l'accouchement arrive. Un matin du mois de juillet, Julie est prise en charge à l'hôpital, dans le service des grossesses pathologiques. 36 heures se passent entre le moment où le cœur de son bébé va être arrêté et le moment où elle va accoucher. C'est dans une salle avec vue sur les montagnes que les deux mamans vont faire la rencontre de leur petite fille, prénommée Issadi.
Pour moi, ça s'est bien passé. En fait, moi, j'étais vraiment en état de choc et j'avais ma mission. Ma mission, c'était d'accoucher et en fait, ça, j'étais assez sereine. Enfin, moi qui avais très peur de ce moment-là, de l'accouchement à la base pendant la grossesse, disons que là, c'était vraiment... voilà, c'était ce qu'il fallait faire et puis j'étais prête et... nous ont mis dans la plus belle salle d'accouchement avec vue sur les montagnes et tout. Et voilà, ils ont bien pris soin de nous. On nous a demandé aussi de nombreuses fois ce qu'on voulait faire avec Issadi, si on voulait la voir, ne pas la voir, l'habiller, avec quoi. Bon, il y avait plein de prendre ses empreintes, voilà. Ouais, non, ils ont été vraiment attentifs. Sincèrement, j'aurais pas pu demander mieux, quoi. Après l'accouchement, donc pendant que qu'une des sages-femmes me recousait, l'autre nettoyait un peu Issadi et on avait ramené un grand linge de son grand frère pour avoir un petit truc à lui aussi à ce moment-là, et elle était enveloppée dans ce grand linge-là, et quand moi j'ai été prête, elle me l'a mis dans les bras et on a été un peu toutes les trois et... Moi, j'étais hyper surprise parce que je la trouvais hyper grande déjà, sachant qu'elle était presque un mois avant la date prévue d'accouchement. Et puis, ouais, on a passé un moment à la regarder et puis à lui dire au revoir. Et quand on a eu fini, on va dire, on a appelé les sages-femmes et elles sont revenues la prendre. Et nous, on est remontées dans notre chambre.
C'est le lendemain de l'accouchement, en début d'après-midi, que Julie sort de la maternité. Moins de 24 heures après son accouchement, son postpartum a déjà commencé. Ce corps postpartum, il saigne, il a du mal à se mouvoir. Que le bébé soit vivant ou qu'on soit en plein deuil périnatal, que l'on ait accouché à 5 mois ou à 9 mois de grossesse, chaque femme va ressentir la finitude de ce corps qui est meurtri et qui, parfois, n'aura pas réussi à donner la vie. C'est le cas de Julie, mais c'est le cas aussi de la plupart des femmes qui ont témoigné dans ce podcast. Cela n'enlève rien aux difficultés de celles qui vont vivre un postpartum plus classique, mais ça en ajoute quelques-unes, des difficultés. Dans un premier temps, le plus urgent est de stopper la montée de lait. C'est finalement le seul paramètre qui peut être contrôlé. Le seul paramètre concernant ce corps que Julie va devoir apprivoiser. Car à côté, il y a aussi ce vide avec lequel il faut apprendre à vivre, ou les fameux coups fantômes ressentis par certaines femmes plusieurs jours, plusieurs semaines après leur accouchement. Comme si leur bébé était encore à l'intérieur de l'utérus et qu'il manifestait sa présence. Quand on a un enfant vivant dans les bras, ressentir ses coups dans le ventre, c'est très déstabilisant. Mais quand le bébé n'est plus, c'est tout simplement violent.
Ouais, les coups fantômes, c'est juste fou. En fait, les coups fantômes, c'est l'horreur. Ça a commencé juste après qu'ils aient arrêté le cœur d'Issadi. Genre quelques heures après, avant d'accoucher, je la sentais bouger dans mon ventre. C'était horrible parce que du coup, je me suis dit, mais ça a pas marché. Je dis non, mais c'est sûr, je l'ai senti, ça elle a bougé, quoi. Alors après, ça peut être juste une contraction de l'utérus qui fait que qu'elle bouge effectivement, mais quand même, la sage-femme a dû vérifier pour que je sois plus tranquille, quoi, parce que j'avais peur en fait que ça n'avait pas marché. Ensuite, les premières semaines, de temps en temps, ouais, je sentais comme des coups. Ça a duré quelques mois. Là, ça fait vraiment longtemps quand même que je n'avais pas senti ça. Mais ça a quand même duré quelques mois. Et ça aussi, c'est dur parce que c'est juste des mouvements qui font penser au cou. Alors après, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est des mouvements de l'utérus qui retournent à sa place ou des choses qui peuvent rappeler des coups, mais c'est... Voilà, c'est juste ton imagination aussi qui fait que t'assimiles ça à des coups, hein, j'imagine. Mais apparemment, c'est des femmes qui ont accouché de bébés en ville le sentent aussi. C'est pas quelque chose de rare. Sauf que c'est vrai que quand t'as ton bébé à côté et que tu sens ça, c'est pas traumatisant. Quand tu l'as pas, c'est quelque chose qui est assez dur à vivre. Ça a été assez dur en fait au niveau de mon corps. D'abord parce que j'aimais bien mon corps quand j'étais enceinte. Et du coup, après l'accouchement, j'avais pas de kilos à perdre. Mais déjà, j'en voulais à mon corps à mort d'avoir été. De pas avoir pu protéger Isadis, hein, c'est clair. Et puis après, j'en voulais à mon corps de pas revenir en place, disons, rapidement. C'était juste un trou béant, mon ventre, un vide. Enfin, c'est ce vide que tu ressens quand t'accouches et que tu peux pas avoir ton enfant, en fait, dans les bras. Normalement, c'est fait comme ça. Ton enfant passe de ton ventre à tes bras. Donc, même si tu ressens ce vide dans ton ventre, tu le combles avec ton enfant dans tes bras. Et là, t'as pas ça. Et ce vide, pour moi, ça a été super dur. Et il fallait que je récupère mon corps juste peut-être pour arriver à oublier un peu ce vide. Donc, j'ai pas eu de montée de lait, mais disons que pendant la grossesse, déjà, j'avais des petites, comme ça, des petites gouttes de lait qui perlaient de temps en temps. Et après l'accouchement, ça a continué. Je me demande même si j'en ai pas encore de temps en temps, comme une sensation un peu d'humidité. Voilà, c'est pas complètement parti, mais c'est juste que ça te ramène toujours à ça, quoi, toujours à. Au gâchis, en fait. C'est juste du gâchis, quoi. C'est juste triste. Et puis, et voilà, en fait, ça, j'en ai pas du tout après parlé. Enfin, j'en ai parlé qu'à ma femme, je pense, peut-être à quelques amis, je suis même pas sûre. Parce que c'est quelques gouttes, donc je suis pas sûre qu'il y ait besoin de prendre quelque chose pour arrêter ça. Mais c'est juste que c'est dur à vivre, en fait. Parce que ça continue pendant des mois, quoi. Quand tu prends des cachets pour arrêter la montée de lait, on te dit que c'est important de porter des soutiens-gorge pour pas qu'il y ait de frottement, en fait, et que ça stimule pas le téton et qu'il n'y ait pas de montée de lait. Sauf que moi, je pouvais pas porter de soutien-gorge parce que j'avais cette douleur costale. Donc forcément, je pense que ça a pas aidé. D'ailleurs, je l'ai toujours, la douleur, parce que c'est une inflammation apparemment du cartilage qui tient les côtes. Et c'est pas tout à fait parti, ça a beaucoup diminué, mais du coup cette douleur c'était un peu contradictoire. J'ai envie qu'elle parte et en même temps ça me rappelle Isadi, donc c'est aussi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à aller voir le médecin. Mais ouais, c'est assez contradictoire dans le sens où ça me rappelle où étaient ses petites fesses, on va dire, quand elle était dans mon ventre.
Pendant plusieurs semaines, Julie ne va voir aucun soignant, ne va profiter d'aucune prise en charge particulière. Cela dit, son épouse, au moment de la naissance de leur fils, n'avait pas eu d'accompagnement médical particulier après son accouchement. En France, le suivi post-accouchement est assez proche de celui proposé en Espagne. Comme le rappelle Ilana Weisman dans son livre « Ceci est notre postpartum », les nouvelles mères peuvent, en théorie, profiter de deux séances de suivi post-natal par une sage-femme. Mais par manque d'informations, nombreuses sont celles qui ne revoient un soignant qu'au moment de la consultation obligatoire qui a lieu 6 semaines après l'accouchement. C'est donc un mois et demi après son IMG que Julie a programmé une visite de contrôle avec une sage-femme pour vérifier que tout va bien. Elle s'aperçoit, à cette occasion, que le postpartum sans bébé est un impensé dans le monde des soignants et soignantes à qui elle a affaire.
Si tu veux un suivi, j'imagine que tu peux appeler ta sage-femme, prendre rendez-vous, mais... Le truc de base, en fait, c'est au bout des six semaines, faire un contrôle pour vérifier que l'utérus est bien revenu à sa place et que les saignements ont stoppé, etc. Moi, au bout de 6 semaines, j'ai pris rendez-vous chez ma sage-femme parce qu'en plus, je saignais encore, donc je voulais voir avec elle. Et puis voilà, et là, elle m'a demandé comment allait mon bébé. Et je me suis dit... Avec la Covid, alors déjà, ils ne mettent pas les visages sur les gens parce qu'ils n'ont presque pas eu de rendez-vous présentiel. Et en plus, moi, j'ai eu plusieurs sages-femmes. Il y a eu un départ à la retraite. Ensuite, j'en ai eu une autre, une remplaçante. Ensuite, il y a eu celle qui est venue prendre la place de celle qui était partie. personne me connaissait vraiment en fait, hein, et celle-là je l'avais jamais vue. Mais bon, ça m'avait quand même choquée parce que dans le Pays Basque, notre histoire clinique apparaît. Enfin, s'ils cliquent sur notre nom sur leur ordinateur, ils peuvent voir. Et moi, le dernier truc qui m'est arrivé, c'est ça. Hein, Donc, c'était quand même très facile pour elle de jeter juste un petit coup d'œil. Et voilà. Et j'étais sûre que ça allait. Enfin, je m'attendais à une gaffe parce que tu t'attends toujours à. Tu t'habitues aux gaffes, on va dire. Du coup, tu sais toujours que ça va être compliqué, tous les rendez-vous, tout. Mais à ce point-là, quand même, c'était. Du coup, je lui ai dit, il est toujours mort, le bébé. Ouais, j'ai été un peu dure à ce moment-là. Celle-là, un peu. Elle m'a dit, je savais pas. Bah, enfin, tu peux le savoir si tu veux, mais on t'a pas regardé, en fait. Et c'est juste. J'ai été un peu dure dans ma réponse, dans le sens où. Je me suis dit, j'espère qu'elle le refera pas, quoi. Du coup, qu'elle vérifiera avant de poser ce genre de questions, parce que du coup, c'est juste hyper dur.
Suite à ce rendez-vous, le premier depuis son accouchement, Julie commence à redouter chaque autre rendez-vous durant lequel elle devra aborder cette grossesse qu'elle vient de vivre. Car aborder cette grossesse, c'est aussi s'exposer de manière quasiment inéluctable au regard d'une personne pour qui le deuil périnatal n'est pas envisageable. C'est consulter pour un mal de dos et se retrouver à expliquer devant des yeux écarquillés que le bébé est mort. C'est demander un avis à propos de son périnée et entendre des critiques sur le suivi qui a été le sien pendant sa grossesse.
Après, j'avais juste la phobie en fait des rendez-vous médicaux. Enfin, après, moi, pendant la grossesse, j'avais des grosses douleurs costales et je pouvais plus m'asseoir en fait à la fin de la grossesse, ça me faisait trop mal. Et après l'accouchement, ça a nettement diminué, mais c'est pas parti complètement et ça me gênait beaucoup, dans le sens où, par exemple, je pouvais pas porter de soutien-gorge, donc c'était quand même assez fort. Dû à la mauvaise expérience que j'avais, j'ai vraiment tardé à prendre un rendez-vous avec mon médecin pour parler de ça. Et quand je l'ai fait, j'ai pas été déçue du voyage parce qu'elle m'a demandé si j'allaitais. Je lui ai dit non, le bébé est décédé. Elle m'a dit comment ça il est décédé? Je fais il est mort. Enfin, elle est morte. Tu sais même pas quoi répondre à ce moment-là. C'est tellement choquant. C'est juste, mais comment tu peux répondre à ça? C'est vraiment un manque d'empathie total. C'est dingue, ça avait été hyper violent et du coup je suis pas prête de retourner chez le médecin en fait, mais c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des rendez-vous, par exemple, je sais pas, c'est pareil chez le kiné, j'y suis allée un jour mais juste parce que j'avais mal au dos, mais tu vois, quelques mois après l'accouchement et du coup je lui ai dit que j'avais été enceinte par rapport à la distension abdominale et tout, c'était important quand même par rapport au maintien. Et il m'a dit félicitations. J'ai dit mon bébé est décédé. Et là, il a pas su quoi dire et il a pas dit ce qu'il fallait dire. Il a dit ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Enfin, je sais plus exactement. Il a été super maladroit. Il s'est complètement. Imagine un poulet sans tête qui se balade dans la pièce et qui se tape contre les murs. Je sais pas, c'était vraiment, tu fais waouh. C'est juste que c'est des moments où toi t'es hyper vulnérable, où tu dois parler de ça parce que t'es dans un rendez-vous pour ta santé, n'importe. Et au lieu de, au lieu de t'aider, on t'enfonce en fait. Je suis allée voir une kiné spécialisée dans le périnée. Pour voir si tout était ok, parce que ma sage-femme m'avait à peine regardée, elle avait juste, le suivi était zéro, donc du coup je me suis dit je vais quand même vérifier que tout est ok. Moi mon but c'était il faut que je fasse tout pour que mon corps il redevienne, enfin le plus possible comme avant, on va dire, que pour retrouver mon corps. Et j'y suis allée, je lui ai raconté, donc par rapport au deuil, à la perte et tout, elle avait assez bien réagi, mais bon, après, elle s'est permis de remettre en question tout le suivi du système de santé public par rapport au cytomégalovirus, de faire des théories. Enfin, c'est juste pas le moment que tu me dises que ça a été mal fait, en fait. Ça aide pas, ce genre de commentaires, ça aide pas du tout. C'est hyper, hyper maladroit. Donc, du coup, maintenant, j'ai du mal, quoi. Même si maintenant, comme ça fait plusieurs mois que j'ai accouché et que c'est plus, ce sera plus certainement le thème central de mes consultations, j'aurai pas forcément affaire à des commentaires désagréables ou des choses très maladroites. Mais du coup, j'ai une certaine peur maintenant. D'aller chez le médecin, c'est clair, j'ai peur parce que c'est juste traumatisant. Puis tu sors en pleurant, en fait. Hein, ça ne fait pas du bien, mais ouais, il y a un problème d'éducation. Après, je pense que quand on n'a pas vécu de deuil, on peut tous être assez maladroit. Et je pense que moi, j'ai certainement été très maladroite dans le passé également. Mais il y a au moins une chose positive dans cette histoire, c'est que du coup, je pourrais accompagner plus facilement des proches à qui ça arrivera. Mais ouais, c'est pas évident.
Après son accouchement, Julie essaie de survivre, grâce à sa compagne, grâce à son fils. Au fil des semaines, elle commence à refaire surface. Alors elle décide, au bout d'un moment, de tout faire pour se réapproprier son corps. Et ça passe par le roller derby. Vous savez, ce sport qui consiste à être chaussée de patins à roulettes et à essayer de bloquer les filles de l'équipe adverse tout en faisant des tours de piste. Il y a les coups, il y a les chutes. Ça ne fait pas peur à Julie. Et il y a aussi cette formidable impression de vitesse et de liberté.
Au début, sincèrement, c'était vraiment de la survie, en fait. Hein. Enfin, quand tu vis une expérience aussi traumatisante, enfin, moi, mon but, c'était juste de survivre à l'heure. Et puis, quelques jours plus tard, c'était de survivre à la journée. Et si j'arrivais à survivre à la journée, mon but, c'était de survivre à la semaine. Enfin, et ça a duré longtemps quand même. Moi, j'avais juste envie de me laisser aspirer par le vide de mon ventre et de pas sortir de ça. Mais après, j'ai mon petit garçon qui a besoin de ses deux mamans, qui a plein d'énergie et il était en vacances et moi aussi. Enfin, moi, j'étais en arrêt et ma femme aussi. Et du coup, on était tous les trois et il faisait beau, c'est l'été. On a profité, on a fait des trucs tranquilles. Mais je t'avoue que j'ai pas énormément de souvenirs à ce moment-là. J'étais encore étourdie, j'étais encore en état de choc et du coup j'ai quand même des trous assez grands dans ce que j'ai ressenti, pas forcément dans ce qu'on a fait, mais dans ce que moi j'ai ressenti. Je pense que c'est encore un peu bloqué à l'intérieur tout ça. Ça m'a pris quelques semaines de sortir de ce gros brouillard, on va dire, et quand j'en suis sortie, c'est là où je me suis rendu compte de mon corps et j'ai fait oulala, ça c'est, va falloir faire quelque chose et il va falloir se le réapproprier. Et puis qu'il réponde un peu à mes attentes, si j'ai envie de marcher pendant 3 heures, que mon corps soit capable de le faire, si j'ai envie de faire un peu de sport. Enfin voilà, quelque chose d'assez basique, juste que mon corps puisse répondre. Si j'ai envie de jouer avec mon fils, de courir pendant des heures, voilà, que ce soit possible. Et ça prend du temps. Et ouais, et de pouvoir le reconnaître, en fait. De retrouver mon corps comme il avait été avant la grossesse. Même, bon, si c'est pas vraiment possible, hein, mais d'arriver au plus près, et ça, j'en avais besoin. C'est comme le retour de couche, j'en avais besoin. C'était, quand c'est arrivé, pour moi, c'était un énorme soulagement. Enfin, et j'ai eu de la chance, parce que c'est arrivé très tôt, juste après l'arrêt des saignements. Enfin, je pense que 2 mois après l'accouchement, j'avais le retour de couche. Donc, c'est arrivé très vite, et c'était bien, ça m'a fait du bien. Donc, dès que j'ai pu, j'ai essayé de faire du sport. Je me suis inscrite dans une équipe de roller derby. Ouais, j'aimais bien patiner et j'avais besoin d'un truc. J'avais besoin d'un truc comme ça à ce moment-là. Et ça a été très intense au début. C'était hyper dur parce que déjà j'avais plus d'abdos, quoi. Mais grâce aux encouragements de ma femme, j'ai tenu le coup et j'ai pu en faire que 2 mois parce qu'après les sports d'équipe ont été interdits à cause du Covid. Mais ces 2 mois-là, pour moi, ça a été vital. Enfin, j'ai juste repris possession de mon corps. J'ai retonifié mon corps. Ouais, non, ça m'a fait un bien fou. Après, à part ça, je faisais beaucoup de marches. Parce que disons qu'à la fin de la grossesse, j'avais pas trop d'activité parce que j'avais énormément de baisse de tension. Donc déjà, je pouvais pas sortir dans la rue toute seule parce que c'est arrivé plusieurs fois, ma femme a dû venir me chercher dans la rue parce que j'arrivais plus à me relever, en fait. Donc j'avais pas trop d'activité physique. Après j'ai pas pu bouger pendant plusieurs jours dans l'attente de la réponse pour l'IMG, etc. Donc ouais, j'étais dans un état assez lamentable. Il fallait reprendre ça en main.
Il existe un vieil adage qui revient de plus en plus pour souligner l'importance de bien accompagner les femmes qui viennent d'accoucher. Ce dicton dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Par extension, on comprend qu'il faut tout un village pour soutenir la mère de cet enfant. Les coparents doivent s'investir et avoir une vraie place auprès du bébé, et ne pas être présents pour seconder seulement leur compagne. C'est également une invitation à ce que les proches, les soignants et soignantes, soient là pour accompagner les femmes au mieux dans ce postpartum, si déstabilisant physiquement et psychologiquement. Alors oui, quand le bébé décède, il n'y a pas les nuits hachées pour le nourrir, les couches à changer, les pleurs et les cris. Mais il y a tout le reste. Il y a ce deuil qu'il faut gérer. Mais justement, quand le postpartum se déroule lorsque le bébé n'est plus, ce village qui devrait entourer la femme qui vient d'accoucher se vide. Et quand ce postpartum sans bébé se déroule en pleine épidémie, il n'y a plus vraiment de village. Enfin si, par téléphone. Mais les rues sont quasiment désertes et on peut se sentir très seul.
La période où vraiment j'avais besoin d'être seule, mais seule, vraiment seule en fait. C'était vraiment seule, sans ma femme, sans mon fils. J'avais besoin d'être seule avec ce vide en fait. Et ça a duré peut-être quelques semaines, les premières semaines. Après j'avais besoin de faire un peu de vie sociale pour ne pas penser qu'à ça aussi, hein. Pour me distraire et aussi d'être avec des gens avec qui en qui j'ai une pleine confiance, avec qui je suis complètement à l'aise pour pouvoir parler peut-être de certains sujets dont j'avais besoin de parler. Et voilà, et ça, c'est vrai que ça n'a pas été possible. Du coup, ça a compliqué pas mal mon deuil, ça c'est sûr. Et ça a compliqué aussi mon postpartum parce que j'avais presque trop de temps pour moi peut-être, ou pas pour faire des choses, mais trop de temps face à mon image peut-être, ou à mon corps, ou seule avec mon corps peut-être. Vivre le postpartum et le deuil dans cette situation de la Covid, ça veut juste dire que tu le vis tout seul. Ça veut dire que moi, ça voulait dire que je pouvais pas voir mes amis, je pouvais pas voir ma famille. Et ça, je pense que c'est ce qui a été le plus dur en fait. En fait, j'avais que ma femme et ma psy à qui parler. C'est déjà beaucoup, hein, mais il y a un moment donné, t'as besoin de partager des moments intimes avec d'autres gens. T'as besoin d'avoir des câlins, de l'appui, du soutien de tes proches. Et même si la plupart de nos proches, ils ont été vraiment très présents dans la distance. D'autres se sont pas du tout rendus compte de ce qu'on vivait parce que déjà beaucoup de nos proches m'ont même pas vue enceinte. Donc je pense que ça aide pas, non, à se rendre. Enfin, ce bébé-là finalement il était virtuel, il était et au début moi de mon postpartum, pour moi c'était important de souligner qu'elle avait existé. Il s'est dit finalement qu'elle avait vécu en moi, que c'était pas Ah oui, que c'était une vie qui s'était arrêtée, quoi. Ça a été dur de pas avoir accès à nos proches quand on en avait besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on a souffert et même dont on souffre encore, hein. C'est pas fini, malheureusement, tout ça. Même si peut-être que maintenant, on a passé les étapes les plus critiques au niveau du deuil. Mais bon, c'est vraiment un manque qui est là et j'espère que les vaccinations vont aller très vite pour beaucoup plus vite que maintenant pour qu'on puisse retrouver un peu cette vie-là, un peu cette vie sociale qu'on n'a plus vraiment, quoi.
À la fin de notre enregistrement, Julie m'a confié qu'elle en voulait toujours un peu à son corps d'avoir été le vecteur du cytomégalovirus. Malgré tout, elle a fait la paix avec lui. Parce que ce corps, c'est celui qui a porté sa petite fille. Aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions, mais elle sait que le jour où la famille s'agrandira, c'est elle qui portera le futur bébé. L'épisode touche maintenant à sa fin. Et je te remercie, Julie, d'avoir osé parler de ton postpartum sans bébé. de ce moment tellement dur pendant lequel il faut parvenir à prendre soin de son corps, l'aider à se reconstruire, alors même qu'il faut essayer de vivre avec le manque, le vide et l'absence. Pour en savoir plus sur le parcours familial de Julie, je vous invite à écouter l'épisode 26 du podcast de Constance, Les enfants vont bien. Cet épisode est intitulé « Julie et son amoureuse, l'importance d'informer sur le cytomégalovirus ». Pour en savoir plus sur le cytomégalovirus, justement, j'ai mentionné dans cet épisode le compte Instagram de Karen, ma grossesse CMV. Vous y trouverez de très nombreuses informations concernant, entre autres, le dépistage de cette maladie. Karen est également membre de l'association CMV et elle invite toutes les femmes qui ont connu une grossesse marquée par le cytomégalovirus à prendre la parole sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag StopCMV. Par ailleurs, afin de mieux comprendre le tabou qui entoure le postpartum, je vous invite à lire l'essai d'Ilana Weisman, « Ceci est notre postpartum », paru début 2021 aux éditions Marabout. Pas de panique, ça fait beaucoup de choses, mais je vous mets toutes les références et les liens vers les ressources que je viens de vous donner dans la description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et de lui offrir une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et pour terminer cet épisode, je laisse le mot de la fin à Julie. Vous savez, après la grossesse, le corps garde souvent quelques traces, comme des vergetures par exemple. Eh bien, le passage d'Issadi dans le ventre de Julie a laissé un autre type de marque. Des marques poétiques et pleines d'amour.
Les seules marques que j'ai, c'est que pendant la grossesse, j'ai eu pas mal de... comme de grains de beauté qui sont sortis. Et du coup, j'ai plein de grains de beauté en plus, mais à part ça... Ben, en fait, tu vois, j'avais jamais trop pensé jusqu'à ce qu'on en parle là, tout de suite, aux grains de beauté, concrètement, c'est marrant. Ouais, non, c'est vrai qu'ils sont là, par rapport à la grossesse, bah, c'est bien, ça fait une marque du passage 10 à 10, c'est très bien comme ça.